Radio Okapi, regard sur l'actualité de la semaine.
Bonjour et bienvenue dans votre émission de Radio Okapi intitulée Regard sur l'actualité de la semaine. Ravi de vous retrouver encore ce matin. Nous rappelons que chaque samedi à partir de 7h25 heure de Kinshasa, nous vous proposons de passer en revue les faits qui ont marqué l'actualité de la semaine en cours. Avec nos invités, nous essaierons de comprendre en quoi ces faits sont importants et quelles peuvent être leurs conséquences sur la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, pour justement passer en revue l'actualité de la semaine, nous recevons Madame Bernadette Kamango qui est ici au studio de la Radio Okapi. Elle est journaliste et membre de l'Union congolaise des femmes des médias ICOFEM en sigle. Bonjour Madame Bernadette Kamango.
Oui, bonjour et bonjour à tous les auditeurs de Radio Okapi.
En ligne, Cyril Kileba, il est journaliste et il est éditeur du journal des postes paraissant à Kinshasa. Bonjour Monsieur Cyril Kileba.
Oui, bonjour Guy Mathieu, bonjour à tous les auditeurs de Radio Okapi.
Et en ligne depuis la ville de Montréal au Canada, Patrick Mbeko, il est écrivain, il est auteur de plusieurs ouvrages sur le conflit armé en Afrique, il est aussi spécialiste des Grands Lacs. Bonjour Monsieur Patrick Mbeko.
Bonjour.
Merci à tout de suite pour la rétrospective de 7 jours d'actualité. Mesdames et messieurs, vous écoutez Regard sur l'actualité de la semaine, l'émission qui passe en revue l'actualité qui a compté au cours de ces derniers jours de la semaine.
Si vous avez manqué une édition du journal en français et en langue nationale de Radio Okapi, ou encore la chronique coronavirus et le journal de sport, vous pouvez appeler gratuitement le service 42-502 en utilisant un numéro Vodacom. Les appels sont gratuits. Composez les 42-502 et choisissez le menu de Radio Okapi en appuyant sur 3 après le message de bienvenue. N'oubliez pas, les appels sont gratuits en utilisant un numéro Vodacom. Radio Okapi, encore plus proche de vous pour mieux vous servir.
Nous sommes dans Regard sur l'actualité de la semaine. Je rappelle que cette émission connaît la participation de Madame Bernadette Kamango. Elle est journaliste et membre de l'Union congolaise des femmes des médias ICOFEM en sigle. Cyril Kileba, il est journaliste et éditeur du journal des postes paraissant à Kinshasa. Et en ligne depuis la ville de Montréal au Canada, Patrick Mbeko, écrivain, il est auteur de plusieurs ouvrages sur les conflits armés en Afrique. Il est aussi spécialiste des Grands Lacs. Au menu de cette émission, les implications politiques et géopolitiques de la visite de Félix Tshisekedi en Chine, l'extension du conflit TKK aux provinces de l'Ouest et de la RDC avec le phénomène Mobondo et la participation de la RDC au Festival de Cannes. Nous allons commencer par commenter l'actualité sur la prolongation du mandat de la force de l'EAC au Nord Kivu. En effet, au Burundi, la communauté des États de l'Afrique et de l'Est a décidé notamment de la prolongation du mandat des forces régionales jusqu'au 8 septembre 2023. Au-delà du communiqué final, plusieurs questions ont été débattues, entre autres les nouveaux sites des pré-cantonnements des Romangabo, l'investigation des sites des massacres qui auraient été perpétrés dans les zones occupées par le M23. Tout cela explique cette expansion du mandat de la force régionale de l'EAC au Nord Kivu. Madame Bernadette Kamango, prolongation des forces de l'EAC au Nord Kivu, avez-vous été surprise par cette décision ou pour vous c'était prévisible?
Non, je n'ai pas du tout été surprise. Hein. On peut dire que c'était carrément prévisible. Et même si on dit que au plus tard, le 8 septembre, que les forces vont se retirer du sol congolais, pour le moment, je n'en crois pas un mot. Parce que c'est comme on le disait dès le départ, à travers même cette émission, on en a souvent parlé. Et je crois que j'ai eu souvent dit que faire des accords, passer des conventions, passer je ne sais pas quoi, des contrats avec des partenaires, c'est intéressant. Je n'ai jamais dit que s'allier, chercher des alliés à gauche et à droite, que c'était une mauvaise chose. Au contraire, c'est une très bonne chose parce qu'on ne vit pas dans un vase clos. On a besoin absolument, même dans la vie humaine, hein, on a absolument besoin de vivre en relation avec autrui, d'avoir des échanges avec autrui, tout simplement pour apporter un plus sur ce que on voudrait faire. Malheureusement, ce que nous remarquons avec les différents accords ou bien partenariats passés surtout avec beaucoup de pays à l'extérieur, c'est que souvent tous ces accords ont du mal à être respectés. Dernièrement, j'ai pu suivre sur une grande radio de la place l'auteur du livre Holocauste au Congo, avec un auteur,
Charles Onana,
qui est de nationalité camerounaise. Et dans son analyse, lui, il fait part que la principale cause des problèmes en RDC, c'est le non-respect des accords. Et quand nous faisons un feedback sur tout ce qui s'est passé, on peut partir de très loin. Hein. Bon, moi, je citerai peut-être déjà à partir des accords de Sun City jusqu'à aujourd'hui. La plupart des accords, ça ne fait que nous apporter des problèmes. On peut signer un accord aujourd'hui, ça, on va temporiser, on va se dire « ouf, on y est ». Mais on a toujours ce regret-là de remarquer que, au contraire, c'est une façon d'endormir les Congolais pour nous faire vivre d'autres histoires que ce qui a été convenu à travers ces accords. C'est un peu regrettable. Bon, on garde quand même l'espoir pour le 8 septembre, mais je suis sûre que le 8 septembre, on va encore nous pomper d'autres raisons pour que cette force puisse rester sur le sol congolais.
Merci Cyril Kileba. En dépit de toutes les critiques émises au sujet de ce que beaucoup considèrent comme étant une certaine passivité des forces de l'EAC, on accuse même ces forces de collaborer avec les M23. Il y a même ceux qui ne s'empêchent pas, n'est-ce pas, d'affirmer que depuis que ces forces sont déployées au Nord Kivu, les M23 a renforcé ses positions. En dépit de tout cela, le mandat vient d'être prolongé. Et c'est vrai que vous n'étiez pas à Bujumbura, au Burundi, mais quels pourraient être les paramètres ou quels pourraient avoir été les arguments qui peuvent avoir poussé, n'est-ce pas, les participants à prendre la décision de prolonger ces mandats?
Oui, merci Guy Maté. La présence des forces de l'EAC à l'est de notre pays peut d'abord être comprise suivant cette image que je vais donner, que j'emprunte un peu à la culture congolaise qui est très religieuse, par ailleurs. C'est comme la RDC est un corps malade, les forces de l'EAC sont les démons qui sont entrés dans ces corps malades. Et donc, dans cette image où les démons entrent dans un corps malade, vous savez que quand les démons entrent, ce n'est pas pour sortir bientôt. On peut beau multiplier des séances d'exorcisme, mais si les démons sont des démons têtus et que l'exorcisme n'est pas à la hauteur de la puissance démoniaque qui est dans le corps, je crois que les démons finissent par rester dans le corps. Et c'est le cas de ces forces de l'EAC qui, étant déjà entrées sur le sol congolais, aujourd'hui, il va être difficile. Avec notre façon de conduire le pays, il va nous être difficile de les déloger. Et donc, moi, je ne suis pas surpris de voir que ce mandat-là a été prolongé. Et septembre, c'est pas loin. Et si le mandat se termine en septembre, ça signifie que déjà, ils doivent entamer le départ aujourd'hui. Or, aujourd'hui, ils s'installent davantage. Donc, on ne peut pas penser qu'en septembre, ces forces-là vont quitter la RDC. Donc, je ne suis pas du tout dupe. Je ne veux pas l'être. Il faut que l'ensemble du peuple congolais aussi sache qu'il ne soit pas dupe de croire que ces forces-là vont quitter. Ces forces sont venues pour un objectif qui n'est pas inscrit dans leur mission, mais qu'eux-mêmes connaissent. Et cet objectif-là, ils ne sont pas prêts de l'atteindre. Et je ne crois pas que ces forces font partie sans avoir au moins effleuré l'objectif pour lequel ils sont venus et que nous ne connaissons pas formellement et ou officiellement.
Merci Patrick Mbeko. Contrairement à la position officielle du gouvernement congolais de cantonner les éléments du M23 à Kindu, les participants à ces sommets décident que le pré-cantonnement se fera à Rumangabo. De l'avis des experts, Rumangabo arrangerait le M23 étant donné que ce n'est pas loin, n'est-ce pas, de la frontière avec le Rwanda. Du coup, l'impression qui se dégage est que dans ces genres de rencontres, La RDC semble souvent minorisée, elle semble être seule, et elle n'a pas d'alliés parmi tous les pays de la communauté pouvant, n'est-ce pas, comprendre sa position et la défendre, parce que son point de vue, apparemment, n'est souvent pas pris en compte. Comment on peut expliquer cela?
Merci pour l'invitation. Moi, je pense qu'il y a... On brasse beaucoup les projecteurs sur la force de l'EAC, mais on s'interroge très peu sur la responsabilité du gouvernement congolais dans la présence de l'EAC sur le territoire congolais. C'est le gouvernement congolais qui est garant de l'intégrité territoriale, donc c'est lui qui invite, qui veut inviter. Si l'EAC est présent sur le territoire congolais, c'est à l'invitation du gouvernement congolais. Et si le mandat de l'EAC a été prolongé jusqu'au 8 septembre, c'est aussi parce que le gouvernement congolais l'a accepté d'une part, et d'autre part, il se pose ici une question de cohérence et de lisibilité dans la stratégie diplomatique et même militaire du gouvernement congolais. Dans la mesure où on ne sait pas vraiment où va le gouvernement congolais. Parce qu'au moment où on parle de l'EAC, il ne faut pas oublier qu'on a discuté aussi avec les forces de la SADC pour qu'elles puissent se déployer en RDC. Donc, on est dans une cacophonie totale. Et moi, je pense qu'au lieu de fustiger l'EAC qui joue dans certains pays en participant à la déstabilisation de la RDC, il ne faut pas l'oublier, il faudrait peut-être regarder du côté congolais. Bon, on parle du mandat qui a été prolongé jusqu'au 8 septembre, mais je dois aussi rappeler qu'il y aura une évaluation qui va être faite le 15 juin, et en fonction de cette évaluation, peut-être qu'on pourra mettre fin à la force de l'EAC. Mais de mon point de vue, je pense que la question de fond est de savoir que veut véritablement le gouvernement congolais dans cette histoire. Parce qu'il est le premier responsable de la sécurité des Congolais et de la préservation de l'intégrité territoriale du Congo. Donc si on ne pose pas cette question-là, on passe son temps à attaquer l'EAC, de mon point de vue, on pose mal le problème. Et justement, il y a des pays au sein de l'EAC qui l'ont compris et qui tirent leur épingle du jeu parce qu'ils ont réalisé qu'au niveau du gouvernement congolais, il n'y a pas de lisibilité, il n'y a pas de cohérence. Et donc sur cette question sécuritaire à l'est de la RDC. Donc moi je pense que c'est vraiment à ce niveau qu'il faut observer le problème. Notre sœur qui est intervenue avant moi a dit, citant Charles Onana, a dit qu'il y a un problème de respect des accords. Mais le problème déjà en partant, c'est que ces accords n'avaient jamais été conçus pour être respectés. Ils ont été conçus dans une dynamique qui était de mettre sur un même piédestal le gouvernement congolais d'alors et des groupes rebelles, entre guillemets, qui étaient en fait des fabrications de pays étrangers dont certains se révèlent être en fait membres de la force de l'EAC. Je pense ici à l'Ouganda. Bon, si vous prenez le cas d'un autre pays comme le Sud-Soudan, qui est né hier, qui n'a pas nécessairement pas participé dans les guerres du Congo, on semble oublier que M. Salva Kiir, qui est le président de ce pays-là, a longtemps travaillé avec Paul Kagame et... le président Museveni, à l'époque où il était à la tête de la rébellion soudanaise qui était parrainée par le Rwanda et l'Ouganda avec la bénédiction des États-Unis. Donc il faut comprendre tout ça. Le seul pays qui me semble assez sincère à l'égard de la RDC dans cette histoire, je bien semble sincère, c'est le Burundi. Mais les autres ont des intérêts en RDC et si le gouvernement congolais se montre incapable de défendre ses propres intérêts, d'avoir une politique lisible sur la question sécuritaire, ces gens-là vont profiter du pays.
Merci. On va prendre une petite pause en écoutant Dunia de Lady Issa et on revient tout de suite après.
Dunia ina
sommes en 1986. Lady Issa, cette artiste et musicienne congolaise, sort cette chanson Dunia, à travers laquelle elle invite à la prudence face aux difficultés, face aux défis de la vie. Elle invite à la prudence et à la sagesse. Lady Issa vit depuis plusieurs années en Europe, où elle s'est convertie à la foi chrétienne. On revient à l'actualité de cette semaine. La Chine et la RDC ont convenu lundi 29 mai de renforcer leur coopération dans le domaine de la paix et sécurité. Les chefs d'État de ces deux pays ont levé cette option à Hong Kong, en Chine. C'est dans cette ville que Félix Tshisekedi a clôturé lundi sa visite de 4 jours au pays de Mao Tse-tung. Xi Jinping et Félix Tshisekedi ont également décidé d'intensifier les échanges entre les armées de leurs pays. La partie chinoise entend accompagner la partie congolaise dans le renforcement des capacités de ses forces armées. Ces deux chefs d'État ont annoncé l'élévation des relations sino-congolaises au niveau d'une coopération globale et d'un partenariat stratégique. Ils ont, entre autres, convenu d'étendre la coopération à tous les domaines d'intérêt commun, notamment l'éducation, la recherche scientifique, la santé, les infrastructures, les mines, l'agriculture, le numérique, l'environnement, le développement durable, les hydrocarbures, l'énergie et la défense. Patrick Mbeko, vous êtes écrivain et auteur de plusieurs ouvrages sur les conflits armés en Afrique. Vous êtes aussi spécialiste des Grands Lacs. Vous avez souhaité nous parler des implications politiques et géopolitiques de la visite de Félix Tshisekedi en Chine. On vous écoute.
Je pense que j'ai suivi la couverture de l'événement à Kinshasa et dans un certain nombre de médias, et je pense que les gens, particulièrement au Congo, ne prennent pas la mesure de ce qui vient de se passer à travers cette visite. Même s'il est encore trop tôt pour tirer des conclusions hâtives, une chose est certaine, c'est que cette visite se déroule dans un environnement, dans un contexte international caractérisé par la montée en puissance des blocs, donc d'un côté la Chine, la Russie, autour des quatre structures, plusieurs pays de ce qu'on appelle les structures sud globales, et de l'autre, les États-Unis autour desquels se structurent les pays occidentaux, l'Union européenne, le Japon, le Canada, l'Australie. Alors, l'autre chose, c'est que cette visite se déroule à un moment où on a constaté une sorte de froideur dans les relations entre la RDC, les États-Unis particulièrement, mais aussi d'autres pays occidentaux. Ces pays critiquent beaucoup le gouvernement congolais pour plusieurs raisons. Et Félix Tshisekedi, qui a longtemps vanté le partenariat stratégique avec les États-Unis, s'est bien rendu compte que ce partenariat n'avait rien produit de probant. Et donc, on assiste aujourd'hui à ce que l'on a pu observer en 2007, à l'époque, après les premières élections avec l'ancien président Joseph Kabila, qui lui aussi, soutenu par l'Occident, s'était senti lésé au point de se tourner vers la Chine. Et c'est dans ce cadre-là que le contrat chinois a été signé, ce qu'on appelle le contrat du siècle. Et c'est la même chose qui se passe aujourd'hui avec M. Félix Tshisekedi. Ça veut dire que l'on s'achemine lentement mais sûrement, pas nécessairement vers une rupture des liens entre les États-Unis, la RDC, l'Occident et la RDC, mais en tout cas, on se dirige vers un repositionnement stratégique qui va avoir des conséquences directes sur la vie politique et géopolitique de la RDC dans la mesure où les Occidentaux considèrent le Congo et plus particulièrement les ressources de ce pays-là comme leur chasse gardée. Donc à partir du moment où Félix Tshisekedi se repositionne en se rapprochant de la Chine dans un centre de partenariat stratégique et du côté occidental et particulièrement américain, cela va sûrement être très très mal vu. On a vu comment, au début, les Américains avaient poussé pour que M. Félix Tshisekedi puisse revoir de fond en comble le contrat chinois, ce qui ne s'est pas passé. Et Félix Tshisekedi est allé en Chine, on nous avait dit, on a dit publiquement, c'était pour revoir le contrat chinois. Mais sur place, vous aurez constaté qu'on n'a pas parlé de contrat chinois véritablement, mais on a beaucoup plus parlé de partenariat stratégique. Donc cela veut dire que la RDC est en train de se repositionner, et donc, par conséquent, il faut aussi, au niveau congolais, que l'on prenne la mesure de ce que cela veut dire aux yeux des autres grandes puissances qui considèrent que la RDC ne peut basculer du côté de la Chine ou de l'axe sino-russe. Donc c'est dans ce cadre-là, je crois, qu'il faut interpréter tout ça et faire très attention parce que on a vécu des guerres simplement parce que les puissances se positionnaient. Je vais aller rapidement, je rappelle qu'en la guerre de 96-97, c'était une guerre africaine sur fond de rivalité occidentale avec d'un côté les États-Unis, la Grande-Bretagne qui soutenait les rebelles tutsis, donc Kagame, Museveni et les rebelles sud-soudanais. Et de l'autre, il y avait le président Mobutu qui était soutenu par la France. Et il faut regarder les déclarations des diplomates américains à l'époque à propos de Mobutu qui étaient pendant longtemps leurs alliés. Et donc aujourd'hui, si on y prend garde, nous risquons d'assister à une rivalité entre grandes puissances sur fond de problématiques africaines et ici congolaises. Et donc pour moi, il était essentiel d'en parler, surtout que les Congolais tirent les leçons du passé pour comprendre le présent actuel en train de se positionner pour mieux articuler l'avenir.
Voilà, vous avez rappelé les contrats chinois. On se rappelle les pressions qui avaient été exercées au gouvernement congolais à l'époque par le bloc occidental, hein, notamment les Américains, du fait que les Congolais ou la RDC avaient accepté, n'est-ce pas, de conclure ses partenariats avec la Chine. Est-ce qu'aujourd'hui, dans les contextes que vous avez rappelés, ces contextes exceptionnels où il y a cette guerre froide entre d'un côté la Chine et les États-Unis, est-ce qu'on peut encore redouter ce genre de pressions qui avaient été exercées à l'époque? Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que ces pressions soient encore une fois de plus aujourd'hui exercées à l'endroit du gouvernement Tshisekedi?
Ben oui, les pressions avaient déjà commencé. Je tiens à rappeler que pendant qu'il y avait la crise entre le FCC et Cash, pendant qu'il y avait des tensions entre les deux familles politiques, j'avais à l'époque relevé le fait que ce conflit-là entre Félix Tshisekedi et Joseph Kabila risquait de déboucher sur un autre conflit beaucoup plus macro. Je pensais ici aux États-Unis qui soutenaient Félix Tshisekedi, à la Chine, avec laquelle la RDC avait signé le fameux contrat, le contrat du siècle. Donc nous risquons d'assister à ça. Et les États-Unis ont fait pression sur Félix Tshisekedi pour qu'il revoie de prendre en compte le contrat chinois. Ça a commencé juste après la rupture entre FCC et Cash. On a vu des diplomates américains, particulièrement l'ambassadeur des États-Unis de l'époque, M. Hammer, faire pression sur Félix Tshisekedi pour revoir le contrat chinois. Et c'est la raison pour laquelle vous avez vu tous ces rapports qui sont sortis sur la Chine. Parce qu'il ne faut pas comprendre ça simplement dans un cadre strictement national. Il y a des implications internationales et géopolitiques extrêmement importantes que les Congolais doivent garder à l'esprit. Et donc, les pressions vont continuer. Et on l'a vu, déjà, je vous donne un autre exemple, c'est que, parallèlement à ça, vous allez m'autoriser cette digression-là, on a signé un contrat pour l'achat d'armes avec les Russes. Le gouvernement congolais est revenu sur sa décision. Pourquoi? Parce que les États-Unis ont fait pression. Donc les Américains ne vont pas laisser, les Occidentaux de manière générale, ne vont pas laisser la RDC basculer dans les cercles de la Chine ou de l'axe sino-russe. Et ça, il faut que nous le comprenions. Il faut aussi que les dirigeants congolais le comprennent. Donc nous sommes dans des conflits, nous sommes dans des problématiques africaines sur fond de rivalité entre des grandes puissances.
Merci Cyril Kileba, journaliste et éditeur du journal Des Postes, paraissant à Kinshasa. Dans un contexte où la RDC multiplie des partenaires pour l'aider à solutionner la crise de l'Est du pays, cette coopération avec la Chine dans les domaines de la paix et sécurité pourrait se matérialiser par quoi, à votre avis? La Chine pourrait-elle envoyer à la RDC des conseillers militaires? La Chine est-elle prête aujourd'hui à envoyer des troupes en RDC ou est-elle prête à fournir des équipements militaires à la RDC quand on sait qu'elle entretient également des bonnes relations avec les Rwandais?
Bon, envoyer des troupes à RDC, je crois que je peux, même les yeux fermés, je peux me hasarder à dire non, il n'y aura pas de troupes chinoises en RDC. Mais par contre, ce qui me paraît essentiel à relever, c'est de noter le contexte dans lequel tout ceci arrive. J'ai bien suivi Monsieur Patrick Mbeko. Alors, mais il y a cet élément de contexte qu'il faut relever, c'est que la RDC se tourne vers la Chine alors que l'Occident, et plus particulièrement les États-Unis, semble ne pas se satisfaire de la gouvernance congolaise qu'ils ont pourtant encouragé et soutenu, peut-être dans l'objectif de voir la RDC se détourner de la Chine. Donc ce contexte nous produit un autre contexte qui est celui de chantage. C'est-à-dire que à la fois les États-Unis peuvent menacer, mais non content la RDC essaie aussi, pour des raisons politiques interne, essaie de faire un chantage aux États-Unis en se tournant vers la Chine, comme pour dire, ben, retenez-moi, sinon je fais un malheur. Mais en disant ça, ne pensez pas que la Chine, c'est l'armée du salut. La Chine n'est pas l'armée du salut, parce que déjà, on a vu que dans le contexte du fameux contrat du siècle, la Chine n'est pas seulement communiste, c'est-à-dire détestant l'argent, non. On voit bien que la Chine a bien tiré son épingle du jeu de la même manière que l'Occident le faisait en RDC, sinon même plus. Donc, in fine, que ce soit dans le contexte d'hier ou celui d'aujourd'hui avec la Chine, la RDC se retrouve être le dindon de la face. Et elle le sera encore tant qu'elle n'aura pas pris conscience de sa propre force et n'aura pas pris conscience qu'elle doit se faire prendre au sérieux. Mais pour l'instant, elle ne se prend pas au sérieux, et même en se tournant vers la Chine, les mêmes causes produisant les mêmes effets, on en sera toujours à pleurnicher, à pleurer, comme on l'a fait 60 ans durant, avec la coopération occidentale, et je crois qu'on risquera aussi demain de pleurer avec la coopération chinoise. Parce que les Chinois, dans le contexte du contrat du siècle, les Chinois ont bien gagné. On a vu le rapport de l'IGF. L'IGF dit que les Chinois ont largement gagné. Alors, mais aujourd'hui que le président Tshisekedi s'en va en Chine et que finalement la révision du fameux contrat n'est pas tout à fait à l'ordre du jour, les Chinois ont compris que les Congolais ne sont pas sérieux et donc on peut se passer d'eux. Bon, ils vont vous amener dans des nouvelles illusions et nous arriverons au même désespoir.
Merci. Merci, merci Madame Bernadette Kamango. Vous êtes journaliste et membre de l'Union congolaise des femmes des médias ICOFEM en sigle. La RDC se trouve dans une posture difficile où son intégrité territoriale est menacée et elle se trouve, comme on dit, à la croisée des chemins. Elle n'a pas raison ou elle n'a pas le droit de chercher des partenaires qui peuvent l'aider à sauvegarder son intégrité territoriale. Est-ce que c'est tourné vers la Chine? C'est une façon de faire chanter les États-Unis?
Bon, je suis quand même du même avis que mes co-débatteurs. Quand on parle de la Chine, bon, vous savez, en politique, ce sont d'abord les intérêts qui comptent. On a vu au départ, quand le chef de l'État, Félix Tshisekedi, avait pris le pouvoir, on lui a déroulé les tapis rouges là-bas aux États-Unis. Il est parti aux États-Unis, je crois, c'était l'un des premiers pays qu'il a visité, et c'était vraiment réception en pompe avec tapis rouge. Là, maintenant, c'est le même scénario qui se répète, mais maintenant du côté de la Chine. Tapis rouge, réception en pompe. Tout simplement pourquoi? Parce que, au départ, on a beaucoup espéré que les États-Unis allaient apporter un grand appui à la RDC, mais on se rend compte qu'il y a ce que moi je pourrais qualifier de « je t'aime moi non plus ». Les États-Unis, bon, se disent, peut-être qu'à un certain moment, se sont dit, bon, on a maintenant le président de la République de la RDC, nous l'avons maintenant dans notre poche, tout en pensant peut-être que, comme il est peut-être nouveau sur le terrain, on pourrait faire de lui tout ce qu'il veut, mais à un certain moment, je pense que le Congolais aussi comprend que, non, on ne peut quand même pas marcher sur nos pieds. Comme ça ne va pas, alors tournons-nous ailleurs. C'est de plein droit, oui, la RDC a totalement ce droit-là de se chercher des alliés à gauche et à droite pour essayer de trouver des solutions aux problèmes qu'il a. Mais moi, personnellement, je penserais plutôt que la RDC devrait beaucoup mieux essayer de s'organiser elle-même. La Chine, vers laquelle nous tournons en ce moment, la Chine, nous connaissons bien l'histoire de la Chine. Nous savons de quelle manière elle s'est développée aujourd'hui. Elle n'a demandé l'aide de personne. Et je pense qu'à l'époque, avec Mao Tse-tung, le pays s'est mis en autarcie. Évidemment, aujourd'hui, il est impossible qu'un pays puisse se mettre en autarcie, mais à l'époque, c'était totalement possible. Et aujourd'hui, on a les résultats de cette Chine qui était misérable, infréquentable. Mais aujourd'hui, c'est tout le monde qui court vers la Chine, tout simplement parce qu'elle a su viser ses propres intérêts à elle. Je pense que la politique qu'elle s'est dite, c'est que le meilleur moyen de se défendre, c'est de se défendre soi-même. Et je pense que de plus en plus, nos dirigeants congolais devraient beaucoup mieux comprendre avec ça. La Chine a toujours été ici, même à l'époque Zaïre avec Mobutu. De cette coopération chinoise, on a le Palais du Peuple, on a le Stade des Martyrs. Aujourd'hui, on a même le centre culturel qui est en train d'être construit, tout ça, ce sont les œuvres de la Chine. C'est-à-dire qu'on peut comprendre que sur le plan culturel, la Chine, bon, on n'a pas pratiquement pas trop à se plaindre. Mais maintenant, sur le plan politique, on sait que la Chine est l'un des meilleurs partenaires privilégiés de toute l'Afrique, dont la RDC. Tout simplement pourquoi ? Parce que par rapport aux États-Unis, il semblerait que la Chine soit beaucoup moins regardante concernant les histoires comme les droits de l'homme, ce genre d'histoire. C'est beaucoup plus le win-win avec ce pays de l'Orient. En tout cas, moi, je pense que cette visite de travail que le président de la République vient d'effectuer, c'est beaucoup plus pour réchauffer les relations entre les deux pays. C'est quelque peu du déjà vu. Mais comme les co-débatteurs l'ont bien expliqué, il faut faire attention. Il faut dire que la Chine, quelque part, c'est aussi l'un des bons partenaires de la Russie. Or, nous savons les relations qui existent entre les États-Unis et la Russie. Je ne pense pas que les États-Unis vont laisser la RDC de cette manière sans réagir par rapport au fait qu'on essaye de les lâcher en faveur d'un pays qui est allié pratiquement à la Russie. Donc on aura dans quelques jours, certainement on vivra les conséquences peut-être, nous espérons toujours qu'elles soient positives, mais on en sait déjà quelque chose avec ce qui s'est passé dans le pays par rapport à nos anciens chefs d'État qui se sont tournés justement vers la Chine.
Merci, chères auditrices et chers auditeurs. L'actualité en RDC, c'est aussi l'actualité musicale. Nous allons écouter cette nouveauté des Bunes Affilées intitulée « Réseaux sociaux » et on revient juste après.
Fabrice Kitangou, Parking Yabadjogo, Maman Lydia Kitangou, la femme du boss. Réseaux sociaux, monde d'influence. Queen Guitambou, la fille du boss.
Réseaux sociaux,
Fali Guitambou, la fille du boss.
Ma raison à la qui s'accabato à sa patron, mais en réalité à sa déduire. Ma raison à la qui s'accabato à sa marié, mais en réalité à sa célibataire. Ma raison à la qui s'accabato à sa naïsse, mais en réalité à son yo comme aïe.
Réalité.
Réseaux sociaux.
Clary Guitambou, le chef coutumier. Marigo Guitambou, Didier Guitambou, ancêtre.
Ma raison à la qui s'accabato à sa patron, mais en réalité à sa pierre. Ma raison à la qui s'accabato à sa marié, mais en réalité à sa célibataire. Ma raison à la qui s'accabato à sa naïsse, mais en réalité à son yo comme aïe.
Réseaux sociaux.
Influencia, réseaux sociaux. Pas comme il faut ma vie.
Réalité. Natacha Guitambou.
Réseaux
sociaux. Mami Milolo Yabos Babimbi. Blaise Guitambou. Empereur. Paul Alex Ingwe Beni d'Afrique.
Nan lula kaye na foto, tango na monia na miso, onde kola nga ina yotima.
Même report.
Nan lula kaye na video, tango na monia na miso, onde kola nga ina yotima. Fabrice nan lula ya na mosika, tango puse ni peme ni ope, si posa posa la lisu.
Fasi mitoku.
Gitanfu me mangalante la lisu. Na sala lisu, onda makonda nenga. Na yebisa yeza li fote na nga iti. Ekela muna yo tinaki na mokili ye mota sali ngai boy a benwi singai a kumi kumi ngai anda mio moko twai de
wang te mai amu wambi long selo mutia bichi lwa lwa de chuku
na lula kae na foto tamo na moni na miso.
Radio Okapi, regard sur l'actualité de la semaine.
Bonjour, nous revenons dans cette émission Regard sur l'actualité de la semaine. Je rappelle que chaque samedi à partir de 7h25 heure de Kinshasa, nous vous proposons de passer en revue les faits qui ont marqué l'actualité de la semaine en cours. Avec nos invités, nous essaierons de comprendre en quoi ces faits sont importants et quelles peuvent être leurs conséquences sur la RDC. Dans la première partie de ce magazine, nous avons fait un commentaire sur la prolongation du mandat des forces de l'EAC au Nord Kivu. Nous avons également analysé les implications politiques et géopolitiques de la visite de Félix Tshisekedi en Chine. Participe à cette émission, Madame Bernadette Kamango, elle est journaliste et membre de l'Union congolaise des femmes des médias ICOFEM en sigle, Monsieur Cyril Kileba, qui est journaliste et éditeur du journal des postes paraissants à Kinshasa et en ligne depuis la ville de Montréal au Canada, M. Patrick Mbeko. Il est écrivain, il est auteur de plusieurs ouvrages sur les conflits armés en Afrique, il est aussi spécialiste des Grands Lacs. Les miliciens Mobondo ont atteint le territoire de Popokabaka dans la province du Kwango à plus de 400 km de la ville de Kinshasa et à moins de 50 km de l'Angola. Cette information a été livrée dimanche 28 mai par le député national Jean-Pierre Passizapamba. Lors de cette intrusion, le commandant de la police, Jean-Berry Manzanza, a été tué. Un policier est porté disparu et un autre grièvement blessé. Ces événements se sont déroulés jeudi 25 mai dernier, renseigne le député national Jean-Pierre Passizapamba. Il appelle le gouvernement à intervenir rapidement pour rétablir la paix dans cette partie du pays qui, selon lui, n'a jamais connu une instabilité sécuritaire. Cyril Kileba, vous avez souhaité nous parler de ce sujet. On vous écoute.
Oui, ce sujet est d'autant plus important que la vie de plusieurs millions de Congolais est mise en danger et que plusieurs centaines de Congolais ont déjà trouvé la mort. Mais il se joue aux portes de la capitale et quand on sait que la capitale Kinshasa est peuplée de près de 20 millions d'habitants, on ne peut que s'inquiéter du sort d'autant de Congolais, autant de personnes, autant d'Africains, autant de... Il n'y a pas que des Congolais à Kinshasa, il y a bien d'autres nationalités. Donc, il y a beaucoup de vies qui sont en danger avec un conflit armé. Au début, on l'a présenté comme étant un conflit ethnique entre Teke et Yaka, mais au fur et à mesure que l'on avance, on se rend compte que ce n'est pas tout à fait cela, et que bien même si quelques disputes se seraient passées entre quelques Teke et quelques Yaka, cela n'était pas suffisant pour déclencher un conflit entre deux peuples qui vivent de façon séculaire ensemble. Alors, il nous revient donc que ce conflit, qui tire son origine apparemment du foncier, est devenu bien plus grave, bien plus grand que le simple foncier que deux tribus se seraient disputées. C'est devenu un conflit politique et les fonciers a dû servir de prétexte, et quand vous prenez un conflit apparemment réel sur le foncier, vous y ajoutez la volonté de puissance des acteurs occultes, cela devient très dangereux et pour le pays et pour la ville de Kinshasa. Aujourd'hui, qu'est-ce que l'on observe? Je prends le simple cas de la nationale numéro 1 dans son tronçon entre Kinshasa et Kikwit. D'abord, ces dernières semaines, il y a eu beaucoup de morts sur la nationale numéro 1 avec ces fameux phénomènes que l'on appelle Mobondo, que nous allons expliquer plus loin. Alors, donc, ce tronçon est devenu très dangereux de sorte que dans la province du Kwango, le gouvernement provincial y a décrété un couvre-feu la nuit. Alors, qu'est-ce qui se passe? Tous les véhicules qui viennent du Kwilu vers Kinshasa, ou qui viennent même du Kwango vers Kinshasa, roule à vive allure dans la partie Kwango. Donc, on risque même de connaître, en dehors des tueries que les affrontements peuvent faire, on peut même avoir de nombreux cas de mort parce que on ne roule pas à moins de 80 à l'heure. Mais vous connaissez l'état de la route, vous connaissez la géographie de la route qui n'est pas toujours une surface plane, maîtrisable. Et donc, vous voyez dans quelles conditions ces conflits ont plongé. Et puis, nous ne parlons pas des conséquences économiques. Le fait que plusieurs commerçants craignent à prendre la route pour venir vers Kinshasa, forcément, on arrivera à une pénurie. Il y a déjà la pénurie que nous connaissons, la pénurie des maïs. Bon, elle n'est pas très attractive, mais elle se manifeste autrement par le prix. Donc, il y a beaucoup de conséquences.
Cyril Gleba.
Oui,
on ne va pas évoquer tous les aspects parce qu'on n'a pas tout le temps. Mais depuis quelques semaines, on parle de cette fameuse milice Mobondo. Dans l'édition de votre journal des postes de la semaine dernière, vous avez parlé de ces conflits. C'est qui ces Mobondo et que revendiquent-ils?
Bon, de façon sommaire, ce que nous savons des Mobondo, c'est que les Mobondo, c'est des jeunes Yaka qui se serait levé pour contredire ou tout au moins pour apporter leur réponse à ce qu'ils considèrent comme une injustice de la part des chefs de Péké qui auraient vendu des terres à des inconnus. Lesquels inconnus ne seraient pas des Congolais ou lesquels inconnus ne travailleraient pas au profit du Congo et des Congolais. Alors, ces jeunes auraient eu recours à cette pratique qu'on appelle Mobondo, qui est une pratique fétichiste à laquelle le peuple Yaka a recouru, notamment à l'époque coloniale, pour se rendre invulnérable face à la violence coloniale. Alors, aujourd'hui, ces jeunes auraient eu recours à cette même pratique pour se rendre invulnérable face, non pas d'abord face aux forces de l'ordre, pour autant que celles-ci travaillent dans la légalité, mais face à ceux qui attaqueraient injustement des paisibles populations. Bon, ça c'est l'explication que certains donnent. Bon, d'autres vont dire, oui, les Mobondo, c'est une milice armée par des mains noires, l'expression est en vogue ici, armée par des mains noires et qui, à leur tour, font des exactions sur la population. Donc, bref, ceci ou cela, les Mobondo sont devenus une menace à la sécurité dans cette...
Merci. Merci, Madame Bernadette Kamango. Quelle est votre lecture de cette situation qui touche maintenant la partie est du pays et même Kinshasa, siège des institutions?
C'est vrai qu'au départ, quand le conflit a commencé, donc je ne pouvais même pas m'imaginer ni de près ni de loin qu'aujourd'hui la situation pouvait empirer de cette manière. Et surtout que ça se passe à la porte de Kinshasa. Moi, j'étais sûre et certaine que comme ce conflit est situé à la porte de la capitale, tout serait fait pour pouvoir ne fût-ce que mater un peu cette insécurité qui prévaut là-bas. Mais au contraire, nous sommes aujourd'hui en train de déplorer que les choses sont en train de... On a l'impression de dépasser toutes les probables solutions que nos autorités pourraient apporter à la résolution de ce conflit. Et la seule présentation qu'on nous présente, excusez-moi pour la tautologie, donc la seule chose qu'on nous présente pour expliquer ce conflit, c'est on nous parle de main noire. C'est devenu maintenant un mot courant. C'est comme vous êtes par exemple au village, il y a une maladie au village, vous ne savez pas expliquer l'origine de cette maladie, automatiquement on cherche le sorcier. Et le sorcier ici maintenant ça devient la main noire. Mais depuis tout ce temps-là, on n'arrive pas justement à couper cette main noire. Pourquoi? Nous ne comprenons plus rien. Personnellement, moi-même, je n'arrive plus à tellement comprendre les tenants et les aboutissants de ce conflit qui se passe à l'ouest du pays pendant qu'on a un autre conflit pire à l'est du pays. et nous espérons vraiment que ce conflit ne puisse pas atteindre des proportions égales à ce qui se passe à l'est du pays, parce que ça touchera automatiquement tout Kinshasa. Et imaginez-vous que nous sommes dans la capitale, et si la capitale est touchée, ça sera vraiment, je ne sais même pas quel mot attribuer à ça.
Merci, Monsieur Patrick Mbeko. Quelle pourrait être la manière la plus efficace pour résoudre un problème qui implique des acteurs qui se sont radicalisés et qui se permettent, même en plus des civils, de prendre pour cible les militaires et les policiers?
Mais vous savez, souvent, il y a un problème au Congo, de manière générale, qui est que on aborde les questions à partir de leurs conséquences et non de leurs causes. Et si on doit résumer la situation que viennent de décrire mes prédécesseurs, on peut simplement dire que tout ça témoigne d'abord de l'absence de l'État en RDC. C'est-à-dire que c'est parce qu'il n'y a pas d'État que des situations parfois mineures se développent au point de devenir incontrôlables et ces situations vont par la suite engendrer d'autres problèmes qui, eux, vont engendrer d'autres problèmes et on va se retrouver dans une situation de chaos généralisé que personne ne pourra contrôler. C'est ce que nous observons même au niveau du Kivu. On est parti d'une situation de stabilisation qui a fait naître d'autres problèmes et ça s'ensuit. Et il s'en est suivi d'autres situations de chaos que nous observons aujourd'hui. Donc on peut dire la même chose de ce qui se passe aujourd'hui à Kouamouté dans ces environs. Moi, je pense que la meilleure manière de régler ça, c'est de rétablir l'autorité de l'État. Mais encore faut-il avoir à la place, dans les postes importants, des personnes qu'il faut, des responsables politiques capable de prendre la problématique à bras le corps et de le régler. Or, on n'en est pas à ça. Et quand on parle de main noire, c'est justement parce qu'il y a de l'instrumentalisation de tout ça. Donc, si vous analysez la plupart des conflits dits ethniques en Afrique, vous allez constater que ces conflits sont souvent politiques, avec en toile de fond l'instrumentalisation de faits ethniques. Ces conflits sont souvent parfois, il y a un problème sociologique ou économique derrière, et on va instrumentaliser l'ethnie. Et dans le cas qui nous concerne ici, on n'a pas voulu aborder le problème, de prendre le problème à bras le corps, on l'a laissé pourrir, et ce problème est en train d'engendrer d'autres petits soucis que l'on veut gérer. De mon point de vue, il faut tout simplement que les autorités prennent leurs responsabilités, non pas en instrumentalisant la situation, mais en essayant d'imposer une sorte de paix qui arrange les uns et les autres, qui arrange tout le monde, parce qu'au fond, il s'agit d'un problème mineur, ce n'est pas un problème extraordinaire. À partir du moment où vous le laissez prospérer et que vous commencez à instrumentaliser, et il y a des craintes que ce problème-là puisse engendrer des situations beaucoup plus chaotiques que l'on ne pourra plus contrôler. Donc, encore une fois, nous revenons, comme au début de la discussion, à ce problème de fond qui est quelle est la responsabilité du gouvernement congolais dans tout ce qui se passe sur le territoire congolais. Donc, je pense qu'il revient aux autorités de prendre leurs responsabilités face non seulement au pays, à l'histoire, mais aussi à la population. Et c'est ça qui fait défaut dans ce pays aujourd'hui.
Merci, on prend une petite pause avec Sakola de Papa Wemba et Koffi Olomide et on revient juste après.
Porque tenía visto. Congo.
C'était Esakola, cette chanson à travers laquelle Papa Wemba Kofi Olomide prône la tolérance et l'amour du prochain. C'est une chanson contenue dans l'album Wake Up, sorti en 1996, et qui avait consacré la réconciliation entre ces deux monuments de la musique congolaise moderne. On revient à l'actualité de la semaine. Je rappelle que nous avons dans cette émission Madame Bernadette Kamango, elle est journaliste et membre de l'Union Congolaise des Femmes des Médias ICOFEM en sigle. Monsieur Cyril Kileba, journaliste, éditeur du journal Des Postes paraissant à Kinshasa et en ligne depuis la ville de Montréal au Canada. Patrick Mbeko, écrivain, il est auteur de plusieurs ouvrages sur les conflits armés en Afrique. Il est aussi spécialiste des Grands Lacs. La ministre congolaise en charge de la culture, art et patrimoine de la RDC a pris part au Festival des Cannes du 22 au 25 mai dernier. La RDC était présente avec la participation d'Eba Logi et son film Augure. La RDC a donc réalisé un exploit historique en faisant son entrée pour la première fois au prestigieux Festival des Cannes. Madame Bernadette Kamango, vous avez choisi de nous parler de ce sujet. On peut savoir pourquoi.
D'abord, pourquoi ? Parce que c'est quand même une fierté que, pour une fois, qu'un film du pays puisse vraiment s'élever jusqu'à ce niveau d'atteindre le Festival de Cannes. Le Festival de Cannes, quand on en entend parler, donc on a l'impression que c'est un rendez-vous qui est réservé seulement pour une certaine catégorie de personnes et particulièrement les géants du cinéma mondiaux. Hein. C'est comme ça que toutes les stars du cinéma se donnent rendez-vous là-bas. Et quelque part, quand le pays peut présenter un film qui est retenu là-bas, on doit quand même se féliciter de ça. Et pour l'Afrique d'ailleurs, je pense qu'il y a 6 films quand même qui ont été retenus là-bas. Et c'est une fierté aussi pour le continent que maintenant, la voix artistique des Africains commence à se faire entendre. Alors, le film Augure a évidemment été présenté, même si on n'a pas remporté la Palme d'Or, mais le fait d'avoir participé, c'est déjà une grande chose, et avec son réalisateur Balogi. Alors, quand j'ai appris qu'il y avait un film, je me suis directement intéressée de savoir qui est ce réalisateur, et puis j'ai découvert qu'il est de nationalité belge, et ça m'a directement fait penser justement à cette histoire de père et de mère. Là, on l'a présenté plutôt en tant que Congolais, alors que lui-même est de nationalité belge, tout simplement parce que c'est un Belge d'origine congolaise. Et le film, il l'a présenté pour représenter le pays. C'est déjà une chose. Et non seulement ça, la deuxième chose, c'est que on doit se poser la question de savoir où est-ce que nous en sommes avec notre secteur cinématographique ici en RDC. Nous étions à un certain moment, surtout à l'époque Zaïre, pratiquement les pionniers du cinéma africain. Nous avons eu des grands réalisateurs comme Chitenge Sana, d'heureuse mémoire. Nous avons eu beaucoup de cinéastes, mais...
Les Moins Ngangura.
Voilà, exactement.
Les Mutombo Buchi.
Ce sont les noms que je cherchais, mais qui, à un certain moment, on ne comprend plus. Cet élan que nous avions a complètement disparu. Au contraire, maintenant, ce sont beaucoup plus d'autres pays africains qui parviennent à se positionner, comme par exemple le Sénégal. Le Burkina Faso, donc on peut dire que c'est un tout petit pays, mais qui a su faire passer sa voix rien qu'avec le cinéma. Et on connaît le festival de Ouagadougou. Nous avons la Côte d'Ivoire, qui actuellement nous présente des produits fantastiques. Nous avons beaucoup ri avec la série Ma Famille. Nous avons les stars, je peux dire, du cinéma africain, Nollywood, nos amis du Nigeria. Et je me dis que nous, ici en RDC, on doit essayer de mieux réfléchir, de mieux se recadrer par rapport à ça, alors que nous étions pratiquement les pionniers du cinéma africain. Actuellement, qu'est-ce que nous avons? Nous avons beaucoup plus, surtout dans nos télévisions, des soi-disant théâtres, mais avec des sujets plus ou moins terre-à-terre, qui n'enseignent pas, dans lesquels les gens ne font que crier, se disputer, se chamailler, et le message, on n'arrive plus à comprendre quel est le message qu'ils veulent passer. J'ai essayé un peu de me renseigner chez quelques cinéastes que nous avons ici au Congo, et eux-mêmes m'ont dit, mais au Festival de Cannes, la ministre est partie là-bas, mais en nous laissant nous. Elle est partie présenter quel réalisateur congolais, quel cinéaste congolais, quel même acteur de cinéma congolais. Eux-mêmes n'arrivent pas à comprendre, mais quelle est l'importance qu'on accorde ici au cinéma congolais, alors que le cinéma, c'est un domaine qui enrichit pratiquement d'autres pays. Nous avons ici, par exemple, accordé un passeport diplomatique à un géant du cinéma, Jean-Claude Van Damme. Et puis, on me dit d'ailleurs que d'ici peu même, il semblerait Jackie Chan va venir. Mais il semble, d'après ces cinéastes congolais que nous avons ici, ils se plaignent qu'il existe un fonds de promotion culturelle. Mais ce fonds de promotion culturelle, ce qu'on en fait, eux-mêmes n'arrivent pas à comprendre. Quand ils tournent des films, ils doivent plutôt se débattre avec leurs propres moyens. Et quand ils doivent présenter leurs films, ils doivent aussi se débattre avec leurs propres moyens pour que leurs films soient présentés plus à l'extérieur du pays qu'ici, tout simplement parce que par manque d'appui ici. On m'a parlé, par exemple, d'ici la fin du mois de juin, il y a le festival Rumba, ici à Kinshasa, qui va se passer. Aucun appui du côté du ministère de la Culture.
On n'en parle même pas. Hein.
On n'en parle même pas. Donc, les gens se débrouillent avec leurs propres moyens. Alors qu'au mois d'août, il y a le FESPAM qui va être présenté et la République du Congo a déboursé 5 millions de dollars pour l'organisation de ce festival. Un festival d'ailleurs qui vient d'ici, de la RDC. Nous avions à l'époque beaucoup de festivals, par exemple, les premiers festivals qui ont fait la fierté du Congo, c'était avec l'Odeur Production,
Ngom Africa,
et les FESPAM, les différents FESPAM, nous avons aussi Kora, qui sont les descendants de Ngom Africa, mais disparus de la circulation parce qu'on ne sait pas ce qui se passe au niveau du ministère de la Culture.
Merci M. Cyril Kileba. Il y a eu dans ces pays des réalisateurs célèbres, Mme Bernadette Kamango a rappelé cela, c'est des noms tels que Moïse Ngangura, Mutombo Buichi, Tshitenge Sana. Pourquoi le cinéma congolais n'a pas connu une certaine promotion? Parce que ce ne sont pas des talents qui manquent, n'est-ce pas?
Les talents ne manquent pas en RDC. Aussi bien sur le plan culturel que sur le plan sportif ou sur tous les autres plans. Mais encore une fois de plus, tout cela trahit notre gouvernance qui n'est pas conséquente et qui n'est pas logique. D'accord, nous sommes fiers qu'on ait présenté un film congolais ou un réalisateur congolais au Festival de Cannes et tout. Très bien. Mais quels sont nos choix en tant que pays? Quel est notre budget de la culture? Il est de combien? Ici, nous nous sommes toujours fait l'idée que bon, les pays doivent faire des recettes avec les minéraux et encore les minéraux. Mais nous ne nous sommes jamais donné la peine de nous dire que avant de vendre nos minéraux, les gens doivent d'abord savoir ce que nous sommes. Qui sommes-nous? C'est la culture qui va nous vendre. C'est la culture qui va dire au monde entier qui nous sommes. Et quand le monde aura su qui nous sommes, le monde découvrira ce que nous avons. Et pour savoir qui nous sommes, il faut que nous sachions nous vendre par la culture. Pas par les mines, pas par la politique, d'ailleurs elle est désastreuse depuis 1960. Voilà. Donc nous n'avons pas réussi à développer une politique culturelle qui soit capable de vendre notre image à travers le monde et du coup nous sommes ce que les autres veulent que nous soyons. C'est pour ça que les autres sont capables de nous manipuler. C'est pour ça que les autres sont capables de nous instrumentaliser. Mais si nous nous asseyons, nous réfléchissons, pour savoir d'où nous venons, qui sommes-nous d'abord, ça, c'est le rôle de la culture. Et après avoir fait cela, nous pourrons nous présenter à la face du monde, nous pouvons nous exporter ce que nous avons en ayant déjà exporté ce que nous sommes. Parce que si le monde nous perçoit comme étant des gens faibles, des gens manipulables, des gens corruptibles, alors le monde nous fera ce qu'il nous fait aujourd'hui. Mais si le monde nous perçoit comme étant des gens sérieux, des gens déterminés, des gens incorruptibles, un peuple digne, le monde viendra pour rechercher ce dont il a besoin chez nous, et nous, dans notre dignité, nous vendrons ce que nous possédons au meilleur prix. Alors j'ai entendu ma collègue Kamango dire oui, les fonds de promotion culturelle, mais justement, les fonds de promotion culturelle, ils subissent ce que toutes les entreprises congolaises subissent. D'abord, quand le gouvernement change, chaque ministre veut placer dans ces fonds-là un proche, un client, un frère. Et quand on place un frère, un proche, ce n'est pas pour développer la culture, c'est pour capter le peu de fonds qui existent là-bas pour soi, pas pour la culture. Donc, nous revenons un peu à ce que Mbeko disait au départ. Mais tout ça fait partie de notre politique globale. Comme gouvernement, qu'est-ce que nous choisissons? Comme État, qu'est-ce que nous avons choisi d'être?
Merci, merci. Patrick Mbeko, nous allons terminer cette émission avec vous. Et qu'est-ce qu'on peut proposer pour sortir les cinémas congolais du ghetto, comme on dit?
Mais tout d'abord, il faut avoir une vision de ce que l'on entend, ce que l'on veut de notre cinéma et par extension de notre culture, comme cela a été dit. C'est là la question de fond. Et puis, il faut consacrer à la culture la même importance que nous consacrons, par exemple, à nos mines. Et personnellement, je n'ai jamais pensé que les mines devaient être au cœur du développement du Congo. Elles doivent faire partie d'un des éléments qui participent au développement du Congo, mais il y a beaucoup plus, il y a autre chose, il y a le tourisme et bien entendu la culture. Il faut sortir du cadre congolais pour comprendre ce que représente la culture congolaise pour d'autres peuples. Le seul problème, c'est que nous sommes des gens qui ne savons pas prendre soin de nos affaires à nous, de notre culture. Et, excusez-moi l'expression, mais l'imbécilisation des cœurs et des esprits a fait aujourd'hui que on ne consacre pas une importance capitale à la culture simplement parce que, quelque part, nous avons perdu le sens de ce que nous sommes. C'est ça aussi la vérité. Et quand son identité est désarticulée, et il est difficile de se présenter aux autres tels que l'on est, et il est difficile de se vendre. Moi, je pense que nous devons accorder à notre culture une importance capitale parce que, comme l'a dit mon prédécesseur, notre culture, c'est ce que nous sommes. Il ne faut pas que nous nous présentons aux gens tels que nous voulons que ces gens nous voient, et tels que nous voulons, nous, que les gens nous voient. En présentant ce que nous avons de beau, de bon aussi. Et c'est ça qui fait défaut aujourd'hui au niveau de la RDC. Et encore une fois, comme l'a dit mon prédécesseur, on ne comprend rien au problème du Congo si l'on se détache de la nature même, de la structure de pouvoir, de la structure de l'organisation de l'État qui est au Congo. Quand les gens ne comprennent pas, vous ne pouvez pas accorder de l'importance à une chose que vous ignorez. Et c'est le cas de la culture aujourd'hui. Le côté le plus pernicieux dans tout ça, le côté pervers et vicieux, c'est que nous sommes prêts, quand les autres le font, à vouloir tirer profit de tout ça. On voit des ministres qui vont se pavaner à CAD et tout ça. Mais quand il s'agit d'investir dans ça, on ne le fait pas. Mais si c'est pour tirer des dividendes, ben, les autorités et tout ça, les gens sont les premiers à le faire. Merci. Aujourd'hui, nous ne soutenons pas nos artistes comme il se doit. Nous ne soutenons pas les acteurs de notre culture comme il se doit, tout simplement parce que pour nous, la culture aujourd'hui n'est pas importante. C'est ça la vérité. Alors, il faut redonner à cette culture-là ses lettres de noblesse et par conséquent, à partir de là, on pourra l'exporter avec fierté parce que c'est aussi ça qui façonne, qui fait l'identité congolaise. Sortez du Congo, sortez du cadre strictement congolais, vous allez comprendre ce que représente la culture congolaise pour les autres. Mais avec ce que nous avons aujourd'hui, bien entendu, on ne peut plus se vendre comme il se doit parce que la part de la médiocrité est beaucoup plus importante que la part du sérieux.
Merci. Merci, c'est la fin de cette émission. Merci à Madame Bernadette Kamango, à Monsieur Cyril Kileba et à Monsieur Patrick Mbeko d'avoir accepté de participer à cette émission. Merci aussi à Polydor Basunga et à Diedone Nyangasa qui étaient à la technique avec la participation d'Hervé Voka et de Devse Vita, à la réalisation Lech Walasa et à la présentation Guy Maté sous la supervision d'Alex Essomé, Martin Sobujangwe et d'Étienne Rogéry. Merci et bon week-end sur Radio Capi. Cette émission sera rediffusée ce soir à 22h heure de Kinshasa. Vous pouvez aussi la retrouver sur le site radiocapi.net. On se sépare avec Eliana de Papa Wemba de Viva la Musica et on se retrouve le samedi prochain.
Oh, my God.